Le nouvel Aureliano venait d'avoir un an lorsque la tension populaire, sans prévenir, explosa brusquement. José Arcadio II et d'autres responsables syndicaux, qui étaient restés jusque-là dans la clandestinité, réapparurent inopinément en fin de semaine et déclenchèrent des manifestations dans les villages de la région bananière. La police se contenta de maintenir l'ordre. Mais dans la nuit du lundi, on fit sortir les responsables de chez eux et on les expédia à la prison du chef-lieu de province avec des fers de 5 kilos au pied. Parmi eux se trouvèrent embarqués José Arcadio II et Lorenzo Gavilán, colonel de la Révolution mexicaine exilé à Macondo, et qui disait avoir été témoin de l'héroïque comportement de son compadre, Artemio Cruz. Ils se retrouvèrent néanmoins en liberté avant 3 mois. Le gouvernement et la compagnie bananière n'ayant pu se mettre d'accord sur celui ou celle qui devait assurer leur subsistance en prison. Cette fois, le mécontentement des travailleurs venait de l'insalubrité des habitations, des escroqueries dans les services médicaux et des conditions iniques dans lesquelles on les faisait travailler. Ils prétendaient d'autre part qu'on ne les payait pas en argent liquide, mais avec des bons qui ne servaient qu'à acheter du jambon de Virginie au comptoir de la compagnie. José Arcadio II fut emprisonné pour avoir révélé que ce système de bons n'était qu'un moyen pour la compagnie de financer ses bateaux fruitiers, lesquels auraient été contraints de revenir à vide depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'au port d'embarquement des bananes s'ils n'avaient dû approvisionner les comptoirs. Les autres griefs étaient de notoriété publique. Les médecins de la compagnie n'examinaient pas les malades, mais les faisaient stationner en file indienne devant les dispensaires, et une infirmière leur déposait sur la langue une pilule couleur turquoise, qu'ils fussent atteints de paludisme, de blénorragie ou de constipation. Cette thérapeutique était si généralisée que les enfants se glissaient plusieurs fois dans la même file et au lieu d'avaler les pilules, les emportaient chez eux pour marquer les numéros sortants au jeu du loto. Les ouvriers de la compagnie étaient entassés dans de misérables cabanes. Les ingénieurs, au lieu d'aménager les latrines, apportaient au camp pour la Noël une sorte de water portatif par groupe de 50 personnes et se livraient à des démonstrations publiques sur la façon de s'en servir pour les conserver en état le plus longtemps possible. Les avocats chenus, tout vêtus de noir, qui étaient venus assiéger autrefois le colonel Aureliano Buendía et depuis lors étaient devenus fondés de pouvoir de la compagnie bananière, désamorçaient toutes ces accusations avec des expédients qui paraissaient relever de la magie. Lorsque les travailleurs eurent rédigé un cahier de doléances unanimement approuvé, ils passèrent un bon bout de temps à vainement vouloir le remettre aux officiels de la compagnie bananière. Dès qu'il connut l'accord auquel ils étaient parvenus, Mr. Brown fit accrocher au train son luxueux wagon de verre et disparut de Macondo avec les plus en vue des représentants de son entreprise. Néanmoins, quelques ouvriers découvrirent l'un d'eux le samedi suivant dans un bordel et lui firent signer un exemplaire du cahier de doléances alors qu'il était tout nu avec la femme qui avait accepté de l'attirer dans ce guet-apens. Les avocats, avec leur figure d'enterrement, prouvèrent au tribunal que cet individu n'avait rien à voir avec la compagnie et pour que personne ne mît en doute leur argumentation, le firent emprisonner comme usurpateur. Plus tard, Mr. Brown fut surpris en train de voyager incognito dans un wagon de 3e classe, et on lui fit signer un autre exemplaire du cahier de doléances. Le lendemain, il comparut devant les juges avec les cheveux teints en noir et parlant couramment espagnol. Les avocats prouvèrent que ce n'était pas là Mr. Jack Brown, surintendant de la compagnie bananière, né à Prattville, Alabama, mais un inoffensif marchand de plantes médicinales né à Macondo, où il avait également été baptisé du nom de Dagoberto Fonseca. Peu de temps après, devant une nouvelle tentative des travailleurs, les avocats firent afficher dans quelques lieux publics le certificat de décès de Mr. Brown, authentifié par main consul et attaché d'ambassade, lequel faisait foi que le 9 juin dernier, il s'était trouvé écrasé à Chicago par une voiture de pompiers. Lassé de ce délire d'herméneutique, les travailleurs renoncèrent à s'adresser aux autorités de Macondo et remontèrent avec leurs doléances jusqu'aux tribunaux suprêmes. Arrivés là, les illusionnistes du droit prouvèrent que leurs réclamations n'avaient aucune valeur pour la simple raison que la compagnie bananière n'avait pas, n'avait jamais eu et n'aurait jamais de travailleurs à son service, mais qu'elle se bornait à les recruter occasionnellement et de façon toute temporaire. Ainsi furent dissipées la fable du jambon de Virginie, celle des pilules miraculeuses et des waters de la nativité, et fut établie par arrêt du tribunal avant d'être proclamée solennellement que les travailleurs n'existaient pas. La grève générale éclata. Les cultures furent interrompues à mi-chemin. Les fruits se gâtèrent entre les fourches des arbres et les convois de 120 wagons s'immobilisèrent dans les derniers embranchements. Les villages regorgèrent d'ouvriers désœuvrés. La rue aux Turcs retrouva tout son éclat dans ce samedi indéfiniment prolongé, et dans la salle de billard de l'hôtel de Jacob, il fallut organiser un roulement 24 heures sur 24. C'est là que se trouvait José Arcadio II, le jour où on annonça que l'armée avait été chargée de rétablir l'ordre public. Bien qu'il ne fût pas homme à présage, cette nouvelle fut pour lui comme l'annonce de la mort qu'il avait attendue depuis cette lointaine matinée où le colonel Guirinaldo Marquez lui avait permis d'assister à une exécution. Ce mauvais signe n'altéra pourtant pas sa solennité. Il joua le coup qu'il avait médité et ne manqua pas son carambolage. Peu après, le feu nourri des roulements de tambour, les aboiements du clairon, les cris, les piétinements précipités des gens lui indiquèrent que ce n'était pas seulement sa partie de billard qui venait enfin de s'achever, mais également cette partie muette et solitaire qu'il jouait avec lui-même depuis le petit matin de l'exécution. Il mit alors le nez dehors et les aperçut. C'étaient trois régiments dont le pas au rythme du tambour de galériens faisait trembler la terre. Leur haleine de dragon multicéphale chargea d'une vapeur pestilentielle l'atmosphère limpide de la mi-journée. Ils étaient petits, massifs, bestiaux. Ils suaient une sueur de cheval. Leur odeur était celle de la viande macérée par le soleil et leur air intrépide, impénétrable et taciturne, celui des hommes des hauts plateaux. Bien qu'il leur fallût plus d'une heure pour défiler du premier jusqu'au dernier, on aurait pu penser qu'il ne s'agissait que de quelques escouades tournant en rond, tant ils paraissaient identiques les uns aux autres, fils de la même mère, supportant avec le même air abruti le poids des sacs et des bidons de soldats, la honte de leurs fusils avec la baïonnette au canon, le chancre de l'obéissance aveugle et du sens de l'honneur. Ursula les entendit passer depuis son lit de ténèbres et leva la main en croisant deux doigts. Sainte Sophie de la Piété revint un instant à la vie, penchée sur la nappe brodée qu'elle finissait de repasser, et songea à son fils, José Arcadio II, lequel regarda défiler les derniers soldats devant la porte de l'hôtel de Jacob, sans qu'un muscle de son visage tressaillît. La loi martiale aurait permis à l'armée de jouer un rôle d'arbitre dans ce conflit, mais il n'y eut aucune tentative de conciliation. Dès qu'ils se furent exhibés dans Tumacondo, les soldats rangèrent leurs fusils, coupèrent et chargèrent les bananes et firent de nouveau rouler les trains. Les travailleurs, qui s'étaient jusque-là contentés d'attendre, gagnèrent la montagne, armés des seules machettes qui étaient leurs outils de travail, et se mirent à saboter ce sabotage. Ils incendièrent les domaines et les comptoirs, détruisirent les voies ferrées pour empêcher le trafic des trains qui commençaient à se frayer un chemin avec des tirs de mitrailleuses, et sectionnèrent les lignes du télégraphe et du téléphone. Les ruisseaux se teignirent de sang. Mr. Brown, qui était bien vivant dans le poulailler électrifié, fut évacué de Macondo avec sa famille et celle d'autres de ses compatriotes, et tout ce monde fut conduit en lieu sûr sous la protection de l'armée. La situation menaçait de dégénérer en guerre civile, aussi sanglante qu'inégale, quand les autorités appelèrent tous les travailleurs à se rassembler à Macondo. Par cet appel était annoncée pour le vendredi suivant la venue du commandant civil et militaire de la province, désireux de s'interposer dans le conflit. José Arcadio II se trouvait parmi la foule qui s'était massée devant la gare dès le début de la matinée du vendredi. Il avait participé à une réunion de dirigeants syndicaux et avait été mandaté avec le colonel Gavilan pour se mêler à la foule et l'orienter suivant les circonstances. Il ne se sentait pas bien et malaxait contre son palais une pâte à goût de salpêtre depuis qu'il avait remarqué les nids de mitrailleuses disposés par l'armée tout autour de la petite place et les pièces d'artillerie destinées à protéger, derrière son réseau de barbelés, la cité de la compagnie bananière. Vers les midis, attendant un train qui n'arrivait pas, plus de 3000 personnes, parmi lesquelles des travailleurs, des femmes et des enfants, n'avaient plus trouvé place sur l'esplanade devant la gare et se pressaient dans les rues attenantes que l'armée boucla par des haies de mitrailleuses. Plus qu'une cérémonie de bienvenue, on aurait dit alors quelques foires pleines d'une joyeuse animation. On avait déménagé les stands des marchands de fritures et les débits de boissons de la rue aux Turcs, et les gens supportaient avec un très beau courage l'ennui de l'attente et le soleil brûlant. Peu avant 3 heures, le bruit courut que le train n'arriverait pas avant le lendemain. La foule, fatiguée, laissa échapper un soupir de découragement. Un lieutenant de l'armée se hissa alors sur le toit de la gare, où se trouvaient 4 nids de mitrailleuses pointés sur la multitude, et une sonnerie se fit entendre pour réclamer silence. À côté de José Arcadio II se tenait une très grosse femme, pieds nus, accompagnée de 2 enfants qui pouvaient avoir 4 et 7 ans. Elle prit le plus jeune dans ses bras. et demanda à José Arcadio le second, sans même le connaître, de soulever l'autre pour qu'il entendît mieux ce qui allait se dire. José Arcadio le second mit l'enfant à califourchon sur ses épaules. Bien des années plus tard, ce même enfant devait raconter encore, sans être cru de personne, comment il avait vu le lieutenant, un pavillon de gramophone en guise de porte-voix, donner lecture du décret numéro 4 du commandant civil et militaire de la province. Ce décret était signé par le général Carlos Cortés Vargas, ainsi que par son secrétaire, le major Enrique García Izaza, et en 3 articles de 80 mots, qualifiait les grévistes de « bande de malfaiteurs » et donnait pouvoir à l'armée de les abattre à vue. Le décret lut, tandis que s'élevaient des huées de protestations assourdissantes. Un capitaine prit la place du lieutenant sur le toit de la gare, et avec le pavillon de gramophone fit signe qu'il voulait parler. La foule redevint silencieuse. « Mesdames et messieurs, » fit le capitaine d'une voix faible, lente et un peu fatiguée, « vous avez 5 minutes pour dégager le terrain. » Les sifflets et les cris redoublés étouffèrent la sonnerie du clairon qui annonçait le commencement de ce délai. Personne ne bougea. « Les 5 minutes se sont écoulées, » reprit le capitaine sur le même ton. « Encore 1 minute et l'on fera feu. » José Arcadio le second, glacé de sueur, se déchargea de l'enfant qu'il portait sur les épaules et le rendit à la femme. « Ces cons sont capables de tirer !» murmura-t-elle. José Arcadio le second n'eut pas le temps de répondre, car au même moment il reconnut la voix rauque du colonel Gavilan qui faisait écho dans un cri aux paroles de la femme. Grisé par la tension de la foule, par la densité merveilleuse de son silence, et convaincu de plus que rien ne ferait bouger cette multitude pétrifiée par la fascination de la mort, José Arcadio le second se haussa sur la pointe des pieds, au-dessus des têtes qu'il avait devant lui, et pour la première fois de sa vie, éleva la voix. « Bande de cons !» s'écria-t-il. « On vous fait cadeau de la minute qui vous manque !» À peine eut-il lancé son cri que se produisit quelque chose qui ne suscita en lui aucune épouvante, mais une sorte d'hallucination. Le capitaine donna ordre de tirer, et 14 nids de mitrailleuses lui répondirent aussitôt. Mais tout avait l'air d'une opérette. On aurait dit que les mitrailleuses avaient été chargées avec de fausses munitions de feu d'artifice, car si l'on entendait leur cliquetis haletant, si l'on apercevait leur crachat incandescent, on ne remarquait pas la plus légère réaction, pas une voix, pas même un soupir dans cette foule compacte qui paraissait soudée par une soudaine invulnérabilité. Tout à coup, d'un côté de la gare, monta un cri de mort et le charme en fut brutalement rompu.
« Aïe, ma mère !»
Une poussée sismique, une éructation volcanique, un rugissement de cataclysme firent explosion au milieu de la foule avec une force de propagation extraordinaire. José Arcadio le second eut à peine le temps de soulever l'enfant, tandis que la mère et l'autre étaient absorbés par cette foule centrifugée par la panique. Bien des années plus tard, l'enfant devait encore raconter, bien que ses voisins continuassent de le prendre pour un vieux radoteur, comment José Arcadio le second l'avait soulevé au-dessus de sa tête et s'était laissé entraîner presque dans les airs, comme porté par la terreur de la foule sur laquelle il flottait, en direction d'une rue adjacente. La position privilégiée de l'enfant lui permit de voir au même moment la masse emballée qui commençait à atteindre le coin de la rue et la rangée de mitrailleuses qui ouvrit le feu. Plusieurs voix hurlèrent en même temps.
« Plaquez-vous au sol ! Plaquez-vous au sol !»
Déjà les premières lignes l'avaient fait, balayées par les rafales de mitraille. Les survivants, au lieu de se plaquer au sol, voulurent revenir sur la petite place, et c'est alors que la panique, comme un coup de queue de dragon, les envoya rouler en grosses vagues serrées contre la houle compacte qui venait en sens inverse, refoulée par un coup de queue de dragon de la rue opposée, où d'autres mitrailleuses tiraient également sans relâche. Ils étaient coincés dans cet enclos, pris dans un tourbillon gigantesque qui fut peu à peu réduit à son épicentre, dans la mesure où la frange circulaire se trouvait systématiquement découpée, comme on pèle un oignon, par les cisailles insatiables et bien réglées de la mitraille. L'enfant remarqua une femme agenouillée, les bras en croix, dans un espace dégagé, mystérieusement épargnée par la fusillade. C'est en cet endroit que le déposa José Arcadio le second, au moment où il allait s'écrouler, la figure en sang, avant que la gigantesque cohue ne vînt balayer à son tour cet espace vide, avec la femme agenouillée, le haut ciel lumineux de la saison sèche, et ce putain de monde où Ursula Iguarane avait vendu tant et tant de ses petits animaux en caramel.